Bonjour et bienvenue dans La Boîte à Clés, le podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je suis Catherine Baudin, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis coach en développement personnel et professionnel et mon objectif est d'aborder ici des sujets très variés afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je donne la parole à des personnes qui ont des histoires de vie inspirantes à nous raconter et qui nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite et leurs enseignements. Et enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de le partager autour de vous et de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis. Et vous pouvez également me faire vos commentaires et vos feedbacks. La semaine dernière, je vous ai diffusé le premier épisode en compagnie de Julie Ledemey, dans lequel elle nous a partagé ses voyages à travers le monde, voyages pendant lesquels elle est partie en quête de sens pour sa vie. Nous poursuivons donc aujourd'hui cette quête avec ce deuxième épisode et Julie nous raconte cette fois comment elle en est arrivée au yoga, comment elle a décidé d'en faire sa profession et ce qu'est le yoga aujourd'hui de manière globale et bien au-delà des traditionnelles postures. Alors, je ne vous en dis pas plus et vous laisse en compagnie de Julie Ledemey.
Qui me disait, mais non, vis, respire, rigole, bouge, enfin. Et l'autre côté qui disait, trouve du travail, il est temps, vas-y, c'est la vie, c'est gris, c'est noir, c'est toutes ces choses-là, et ça me faisait mais, descendre encore plus et encore plus. Jusqu'au mois de septembre, ben, il y a 2 ans pile, au mois de septembre, il y a 2 ans, où là, ça a été difficile. Le choix se posait entre l'illustration et le yoga. Et j'ai dit, je vais faire une retraite yoga. Je vais mettre toutes les choses de mon côté. Et je vais faire une retraite yoga à Barcelone. Non, je vais faire une retraite yoga, je vais en trouver une. Et là, j'en trouve une à Barcelone. Donc à Barcelone, une semaine, une retraite urbaine, ils appelaient ça. Et donc, je dis à mon conjoint, ben voilà, je pars. Je pars une semaine en retraite yoga. Il me dit, ok, vas-y. Si je sens que, voilà, si jamais ça se passe bien cette semaine-là, je tente une formation de professeur de yoga. Ok, j'y vais. Et là, je passe un moment formidable. L'univers a encore mis tout sur un plateau d'argent. Il a déroulé le tapis rouge.
Pour toi,
pour
Julie.
Pour moi, Julie, qui n'avait pas vu de tapis rouge depuis 1 an, parce qu'à ce moment-là, ça faisait 1 an que j'avais quitté mon travail, 1 an et demi. Qui n'avait pas vu de signes de l'univers depuis 1 an et demi, ou surtout qui avait mis des lunettes noires et disait « Je ne veux pas voir les signes de l'univers, je ne veux pas voir les signes de l'univers. » Mais là, je me rendais compte que toutes les retraites yoga étaient trop chères pour moi financièrement. Je n'arrivais pas. Je me disais « Il faut absolument que je trouve une retraite yoga qui soit moins chère. Je ne pourrais pas me l'autofinancer, ce n'est pas possible et tout. » Et là, j'en trouve une. Reste des places, le mois prochain, moitié prix. Oh, tout de suite, je m'inscris.
Message de l'univers.
Message de l'univers. Je me dis, je vais regarder les avions. Et là, je vois 50 euros l'aller-retour. Message de l'univers. Quoi de plus? Je me dis, ah mais oui, mais il faut que je trouve un logement. Et là, j'ai mon cousin qui, par chance, habite sur Barcelone. Tout de suite, j'envoie un message. Je dis, est-ce que si jamais je viens sur Barcelone, pas de souci. On n'aurait pas été là la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais là, on est là. Viens quand tu veux, avec plaisir.
Message de l'univers.
Et du coup, je suis partie à Barcelone et là j'ai rencontré des femmes extraordinaires avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui et qui ont été mes témoins, mes cobayes pour ma première retraite yoga que j'ai organisée en mai dans les Ardennes. Donc une Allemande, une Irlandaise, une Anglaise et une Californienne. Et on a vraiment lié des liens très forts, vraiment des femmes chacune dans notre entité propre et sans jeu.
Dans votre authenticité.
Dans notre authenticité. Sans jeu, nous, sans masque. Toutes, on s'est retrouvées là parce que l'univers nous a toutes mises là au même moment parce qu'on avait toutes quelque chose à tirer les unes des autres. Peu importe, on avait toutes quelque chose à tirer les unes des autres. Peu importe quoi. Et je suis ressortie de cette retraite yoga en me disant « je vais faire la formation ».
D'accord, ça y est. En fait, je veux faire du yoga.
Je veux faire du yoga.
Ma profession, c'est le yoga.
Voilà. Alors, on ne se dit pas ma profession, c'est le yoga. Pas à ce moment-là, parce qu'on... Enfin, sans avoir fait la démarche et la formation, puis surtout, moi, je fonctionne comme ça, c'est que si je n'ai pas le diplôme, je ne vais jamais me dire « je suis
je
ça ».
Je suis.
Voilà. Mmh. Moi, j'ai toujours besoin de me crédibiliser par un diplôme ou par une formation ou par quelque chose. Et là, je me donne la crédibilité de la chose. Mais sinon, sinon non. Même si j'ai les aptitudes, peut-être pour mais je vais pas pouvoir. Ça va être trop bizarre.
Donc là, en tout cas, tu veux faire la formation.
Voilà, je veux faire la formation. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai dit « ben, si je dois faire une formation, je vais aller la faire dans le pays. »
Je pars.
Je pars. Ça faisait 3 ans que j'étais pas partie, ça me chatouillait un petit peu. Donc, j'en parle à mon conjoint, qui me dit « oh !» qui n'était pas aussi enjoué que moi à l'idée que je parte. Mais bon, c'est quelqu'un de très compréhensif et je ne remercierai jamais assez. C'est qu'à partir du moment où ça me rend heureuse, il sait très bien que les répercussions vont revenir sur
bien
lui
sûr.
Aussi et qu'il va en être heureux. Donc, il m'a dit « si c'est ce qui va te permettre de, vas-y, fonce !» Donc, du coup... je suis partie, le préalable avant de partir, je me dis bon, je vais partir en Inde, c'est
bien sûr,
le pays voilà, où le yoga est né. Sauf que on s'aperçoit quand on clique yoga Inde qu'on a à boire, à manger, tout et n'importe quoi. Et du coup, je me dis oulala, le choix va être trop cornélien, ça va être trop compliqué pour moi de choisir, et surtout, quelle est celle qui va me convenir ?
Bien sûr.
Comment je fais pour choisir ? Beaucoup trop compliqué. Comment je fais pour ne pas tomber sur un truc qui va me vendre du rêve sur Internet et puis qui, au final,
qui
je vais arriver,
creux, au final.
Qui sera complètement creux, l'enseignement sera mauvais ou voilà, business, voilà, moi j'avais peur de ça. Et quand j'ai commencé à regarder sur un moteur de recherche exprès pour tout ce qui est yoga, donc retraite yoga, formation de professeur, on a absolument tout ce qu'on veut sur ce moteur de recherche, j'ai vu qu'il y avait des choses en Thaïlande. Et alors, autant à l'évocation de l'Inde, je regardais l'Inde et là je sentais peur, je sentais densité de population, je sentais...
Insécurité.
Insalubrité. Tout ça, tous ces mots-là me venaient et l'angoisse qui montait quand je voyais les formations en Inde. Et je me disais, c'est pas possible. Et Thaïlande, lotus, fraîcheur, amour,
beauté.
Verdure. Et là, je me disais, oh, je crois que le choix se fait par lui-même. Et réellement, quand on dit des fois, on sent dans notre corps, je suis d'accord que ça peut être anecdotique. Je suis complètement d'accord. Mais quel bonheur quand on peut avoir cette clé-là en nous. Quel bonheur quand c'est vrai, quand on le sent. Quand on le sent à l'intérieur de nous, quand on se dit, alors, univers, aujourd'hui, est-ce que je choisis le croissant ou le pain au chocolat ? Oh mon Dieu, c'est le croissant, ça y est, l'univers me l'a dit. Mm. Là, c'était pareil. Enfin, entre le croissant et le pain au chocolat. Ou le bus A ou le bus B.
Oui, bien sûr.
Est-ce que je choisis l'Inde ? Angoisse, terreur, densité de population, insalubrité. Ou est-ce que je choisis la Thaïlande ? Lotus, nénuphar, verdure, yoga, amour.
Paradis.
Donc là, le choix, il est vite fait. Donc je me suis... Hop, le choix s'est fait en entonnoir comme ça, pour tout. Donc du début à la fin. Jusqu'au choix entre deux formations. Alors, j'aime bien aussi expliquer ce moment-là. Parce qu'il y avait la première formation qui se déroulait en Thaïlande, mais en espagnol. J'avais pris un premier contact avec les femmes. Alors là, les photos, c'était paradisiaque. Hein. Sur de l'eau turquoise, sur une île, dans des petits bungalows comme ça. Voilà. Et les femmes, premier contact au top, très sympathique, très espagnol. Vraiment un esprit très, très latin. Convivialité, sympathie, yogi, enfin voilà, c'était vraiment... Et l'autre formation, dans le nord de la Thaïlande, dans les montagnes, dans un ashram, donc un ashram, il faut savoir que c'est un centre d'études, principalement spirituel, à dévotion aux dieux, mais là, il n'y avait aucun, vu que c'était dédié au yoga, il n'y avait aucun lien de religion, en fait. Donc, plutôt spiritualité, études, très fort dans les études, ouverture des lumières à 5h du matin, extinction des feux à 22h, des vêtements adaptés, pas de piscine, pas la mer, et puis, bon, des études très fortes, et surtout, un enseignement de yoga classique. Donc, tant sur le plan physique que sur le plan scientifique que sur le plan psychologique. Donc tout ça est philosophique aussi, surtout. Et là, mon cœur a dit l'ashram. Le cœur a dit le maillot de bain, ce sera pour plus tard. va mettre tes sarouels, va mettre tes leggings de yoga et prépare-toi. Et prends aussi des bouquins et des crayons parce que t'en auras besoin.
Tu vas bosser.
Tu vas bosser très très fort. Donc j'ai l'habitude de travailler dur pour avoir ce que j'ai. Donc ça m'apporte plus de crédibilité. J'ai l'impression d'avoir des études. Mais voilà, je suis partie à l'ashram. Et c'est là que cette histoire yoga a commencé en fait.
Donc là, c'était une formation intense.
Intense, donc 200 heures sur un mois et demi.
D'accord.
Qui a été juste difficile, très difficile. Où j'ai appris que le yoga, c'était quelque chose de global. C'était quelque chose de complet et de complexe. Que le yoga, c'était pas des postures, mais que c'était tout un système. C'est ça, le cours de yoga, ça ne veut rien dire.
C'est cours de posture.
Cours de posture.
Mais le yoga, finalement, c'est plus que ça. C'est un état d'esprit, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est ça?
Complètement. Et je vais te dire une chose, quand je suis arrivée là-bas, on m'a fait lire un pâté de 15 pages, presque imbuvable, en me disant, voilà, il faut que vous l'ayez lu, il faut que vous l'ayez signé avant même de venir à la formation pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Bon, d'accord, dans quoi je me suis embarquée. Et je lis ce truc et je me dis, ok, donc le yoga, c'est autre chose. Le yoga, c'est pas ce qu'on veut nous faire croire que c'est, pour parler simplement. Le yoga, c'est beaucoup plus complet. C'est loin d'être chien tête en bas. C'est loin d'être la
même
posture
si
de l'arbre.
Même si c'est très sympa,
même
chien,
si
tête,
chien
en
tête en bas, c'est une des meilleures postures du monde, d'accord. Je te l'accorde. c'est vraiment la vie. Le yoga, c'est la vie. Étymologiquement, les gens savent en général, yoga, ça veut dire union. Mais union, c'est vaste.
Union entre quoi et quoi,
union
finalement ?
Union entre ton corps matériel, ton enveloppe physique, celle qui est sur terre, physique, et puis ton psychique. Donc ça englobe ton toi ici, toi Catherine, moi Julie, avec ce qu'il y a de plus grand, donc ton grand toi, mon grand moi.
Qui n'est pas dans cette enveloppe-là.
Et qui n'est pas dans cette enveloppe-là, parce que notre enveloppe, c'est restrictif. Notre enveloppe, elle est là pour vivre un chemin sur terre.
En fait, elle est juste là pour matérialiser notre existence sur cette terre, dans cette vie-là.
Tout à fait. Et finalement, le yoga t'aide à unifier ce grand toi qu'on pourrait aller vulgairement entre guillemets dire l'âme. Ton grand toi avec ton toi sur terre. Et lorsque les deux se réunissent, là, c'est le bonheur.
Là, t'es aligné.
T'es aligné et du coup, tout s'aligne. Tout dans ta vie n'est que bonheur parce que tout ce qui t'arrive est en lien et en accord avec toi.
Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il ne t'arrive pas de choses désagréables parce que tu viens de dire tout est bonheur.
Ouais.
Ça veut pas forcément dire qu'on ne vit plus d'expériences négatives, de catastrophes, de décès, de maladies, etc. C'est-à-dire que les choses arrivent, mais elles prennent une dimension qui est autre.
On est capable de faire face à ces situations avec tellement de philosophie et de distance et de détachement que du coup, on est entre guillemets jamais atteint.
D'accord.
On vit le bonheur. En fait, c'est pas comme si un décès nous faisait rire. C'est juste qu'on se dit qu'un décès, c'est la continuité de la vie et qu'on est tellement en phase avec ça que du coup, on le vit comme le décès, c'est la continuité de la vie. Que vivre l'instant présent, c'est du coup ne pas vivre la nostalgie du passé. Donc ne pas se souvenir forcément des choses qui se sont passées avec cette personne-là qui nous rendent tristes. C'est continuer parce qu'on a des actions à mener en tant qu'homme sur cette terre, qu'elles doivent être menées et mener l'esprit apaisé. Réunir le grand soi, son âme, avec son enveloppe corporelle implique le bonheur. Pour réunir le grand soi avec son enveloppe physique, il faut que l'esprit soit apaisé. Si l'esprit n'est pas apaisé, le corps ne sera pas apaisé, tout ce que l'on va dégager ne sera pas apaisé. Et du coup, on ne va jamais accéder à cette étape ultime, samadhi. L'étape où l'on arrive à entrer en lien avec son âme, son grand soi.
Est-ce que c'est un peu une forme de sagesse, ce que tu dis là? Quand on atteint cette forme de sagesse,
c'est en général...
un éveil, en fait, finalement,
oui, c'est
spirituel.
Ça. C'est un éveil de sa conscience. Et plus rien n'a de limite.
Mmh. Qui va bien au-delà que juste l'existence, je dirais un peu plus vulgairement, plus matérielle que l'on vit dans notre quotidien et aujourd'hui.
Complètement, okay. C'est tout à fait ça. C'est un éveil de soi. Tu peux être là, mais tu peux être à un millier de kilomètres sans avoir à transplaner. C'est prendre les choses avec tellement de sagesse et de distance que tout ce que tu fais a un sens pour toi. Et finalement, il n'y a plus rien qui peut t'affecter.
Ça s'inscrit dans ta vie, ça a un sens dans ta vie.
Complètement.
Et ça, donc ça, tu l'as assimilé dans la lecture de ce fameux book avant ta formation ou pendant la formation?
Pendant la formation. D'accord. C'est très anecdotique quand tu le lis comme ça, les 15 pages où tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Tu les lis, mais tu les vis pas encore.
Non,
et tu les as ressentis et vécus pendant ta formation.
Voilà. Alors, ce qui est très bien dans cette formation, c'est qu'ils te le font lire avant et ils te font écrire tout un essai sur ce livre, sur ces 15 pages-là.
D'accord.
À la fin de la formation. Au milieu de la formation. Et là, ça en prend un tout autre sens, parce que tu l'as lu au début, tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu l'as lu au milieu, tu te dis, mais bien sûr.
Évidemment.
Mais oui, évidemment. Mais bien sûr. Et il faut savoir que dans cette formation, j'avais 1h30 de pratique de posture le matin et 1h30 de décortiquage de posture le soir. Donc, apprendre les bénéfices, les limites, à faire les postures de façon parfaite, à savoir comment les enseigner. Ce qui fait 3h dans la journée, de 5h à 10h du soir, il y a beaucoup plus d'heures.
Qui dans l'absolu n'est pas
c'est rien
pas
du
énorme.
Tout. Donc on pourrait s'attendre à ce que dans des formations de yoga, qu'on pourrait croire où on fait que des postures toute la journée.
Finalement non.
C'est très philosophique. C'est très scientifique. On t'enseigne une façon de vivre. On t'enseigne une façon d'aborder les choses. Les postures de yoga, c'est 15% du yoga.
D'accord.
Les postures de yoga, au final, ça a deux choses. C'est d'une, pouvoir être... en fait, c'est même une chose, c'est que ton corps ne te gêne plus. Voilà. Pour découler sur deux choses, d'une, qu'il ne te gêne plus pour méditer, parce que la méditation va t'amener au samadhi, cette union entre toi et ton âme. Tu vas pouvoir connecter avec ton âme dans les moments de méditation, que tu pourras faire dans la vie n'importe quand.
Bien sûr.
Alors on a tendance à penser que la méditation, on est en tailleur, on fait des ronds avec ses doigts et puis on fait...
En position du lotus.
Voilà.
Voilà,
c'est ça. Mais non, on peut méditer au quotidien. Et on
même
peut...
Même dans les transports en commun.
Même... Je comprends pourquoi tu dis ça. On peut méditer même dans les transports en commun. Il n'y a pas d'endroit pour méditer.
Et donc ça, c'était la première chose.
Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les postures ont une incidence scientifique. Les postures sont là, non pas pour te rendre plus souple, non pas pour te muscler. Les postures sont là pour te réorganiser le système nerveux, réorganiser le système normal, apaiser ton cœur, donc apaiser la circulation sanguine, apaiser la respiration, donc apaiser ton esprit. En stimulant des glandes, on va stimuler le système hormonal. En stimulant le corps, on va stimuler le système nerveux. Et ce n'est qu'après toutes ces stimulations qu'on va réorganiser les systèmes complexes, hormonaux, sanguins, digestifs. Et il n'y a qu'à ce moment-là que l'on va apaiser l'esprit.
D'accord.
Et que l'on va finalement mieux se muscler. Que l'on va finalement perdre du poids.
D'accord.
Que l'on va
Mais ça, c'est la conséquence.
C'est la conséquence.
Ok.
C'est la conséquence des postures. Les postures ne sont là que pour avoir un corps serein et en forme. C'est pas le yoga. C'est une porte d'accès au yoga. Mais c'est en rien du tout le yoga.
D'accord.
C'est comme si on disait le yoga, les postures c'est le yoga. C'est comme si on disait les fruits c'est une pomme.
D'accord.
Non, la pomme c'est un fruit. Voilà.
Mais c'est 15% des
fruits. C'est 15%
fruits.
De tous les fruits en règle générale.
D'ailleurs, ça doit même être beaucoup
moins.
Oui,
mais bon.
Peu importe.
Voilà,
mais,
c'est plus juste pour l'exemple. Ou une partie de voiture. La porte, c'est une voiture. Non. La porte est un composant de la voiture. Tout comme les postures sont une composante du yoga. Finalement, on peut faire du yoga sans avoir à faire des postures. Parce que il y a déjà.
Alors ça passerait par quoi alors?
Ça passe par la dévotion. Ça passe par l'action. On va être plus dans le don de soi que dans la posture. Et il ne faut surtout pas se culpabiliser si jamais, par exemple, un jour ou une semaine, on ne fait pas de posture. Ce n'est pas grave. J'ai envie de te dire que, tu vois, aujourd'hui, moi, par exemple, mon cas précis, la preuve vivante, c'est je manque cruellement de faire des postures parce que j'aime bien ça, j'aime bien en faire. Mais au final, ce n'est pas mon action première de faire du yoga. Aujourd'hui, par
de
exemple...
De faire des postures de yoga.
De faire des postures de yoga, voilà. Moi, aujourd'hui, ma façon de faire du yoga, c'est par exemple d'être bénévole dans une association. Mm-hmm. Toutes les semaines, je suis bénévole dans une association.
D'accord.
C'est ma façon de faire du yoga. Parce que donner du temps pour les autres gratuitement, c'est un précepte du yoga.
D'accord.
De pouvoir donner du temps à l'autre de manière désintéressée, entre guillemets, et avec derrière une certaine sensibilisation. Donc, je suis bénévole dans une boutique de commerce équitable, ce qui rejoint
d'accord.
un petit
finalement,
peu
ce qui est cohérent avec tout
le reste, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai une sensibilisation, enfin, je sensibilise parce que je vais aussi éduquer dans les écoles. Je vais sensibiliser les enfants au commerce équitable. Il y a cette partie éducation. Et il y a aussi cette partie du ben, je donne de mon temps pour une bonne cause. Et pourtant, ça, c'est du yoga. Mmh. Je ne fais pas de posture, par
Bien
exemple.
Sûr.
Mais c'est du yoga.
Ça fait partie de la philosophie
Complètement.
Du yoga.
Je n'ai pas besoin de faire 3 heures de posture par jour pour faire du yoga. Mmh. Non, c'est totalement différent. Enfin non, c'est complètement complémentaire. Et tu n'as pas besoin... Il y a des gens, ils disent, oh là là, mon Dieu, j'ai pas médité, j'ai pas fait mes postures, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Oui, mais c'est pas grave.
Tu as pratiqué autrement.
Voilà, il y a une autre pratique derrière. Mmh. Tu as donné une pièce à un mendiant. Voilà, tu as pensé à quelqu'un d'autre. Mmh. Tu as fait à manger à ton voisin qui est un senior et qui perd un peu la tête. Mmh. Tu es allé lui apporter un plat à manger. Il y a des gens qui font du yoga tous les jours et qui ne le savent pas. Mmh. Et ce qui, moi, a été une révélation dans ce voyage-là, dans cette formation-là, c'est que je faisais... Ma vie était finalement du yoga.
En fait, finalement, dans toute ta vie, tu avais déjà expérimenté ça, tu le mettais déjà en œuvre sans avoir conscience que c'était du yoga.
Complètement.
Donc finalement, là, ça venait concrétiser
exactement
ce que tu faisais déjà.
Exactement.
C'est en ça où tu t'es retrouvée en face, finalement.
Voilà. Et finalement, j'ai choisi la meilleure formation qui soit parce que j'aurais une formation juste de posture. Finalement, ça aurait été très creux. Là, je me dis, mais ma vie entière aujourd'hui est régie par ses préceptes. Et aujourd'hui, je suis capable de l'enseigner, de le transmettre et d'avoir des valeurs dans mon travail qui sont égales aux miennes. Mmh. Chose que je n'avais jamais expérimentée.
Jusqu'à présent, d'accord. Donc aujourd'hui, tu es prof de yoga.
Oui.
Tu es installée dans les Ardennes.
Oui.
Ta structure s'appelle Mésange.
Mésange Yoga, oui. Ouais. Enfin, Mésange Yoga.
Ok. Et donc, comment ça se passe concrètement? Tu donnes des cours collectifs, des cours individuels?
Voilà. Alors, cette formation-là, justement, comme il y a une réelle volonté de travailler au niveau scientifique, elle permet d'aller au fond des choses. Et elle me permet de faire des cours individuels pour venir soulager des gens, soulager des problématiques. Qu'elle soit physique, psychique ou émotionnelle. Et du coup, quand une personne vient me voir et me dit « Bon, ben voilà, Julie, j'ai un souci, j'ai un problème de dos, j'ai une hernie discale, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai des insomnies, j'ai été opérée et je vis mal le fait d'avoir été opérée, je viens d'accoucher. » Voilà, les gens en individuel, comme ça, viennent me voir, me posent une problématique et je leur fais remplir un questionnaire. Et à la suite de ce questionnaire, je peux établir un cours qui va pouvoir répondre à cette problématique. Mm-hmm. Et donc, aller au fond des choses avec eux. Donc, c'est vraiment très dans l'accompagnement. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet aussi rapidement d'avoir des bénéfices
très précis,
sur les personnes. Voilà. Ensuite, j'ai le cours collectif qui, lui, est plus général. Autant scientifique, on travaille...
Bien sûr, voilà. Parce que là, tu dois t'adapter à
bien
tout le
sûr,
monde.
Tout le monde, je ne peux pas aller... Bien que je favorise les petits cours pour justement pouvoir avoir
bien
une
sûr.
Attention sur chacun. J'insiste sur le chacun, parce qu'on a tendance à croire que le yoga, c'est très féminin, mais j'ai beaucoup d'hommes aussi. Ça dépend des coins des Ardennes, mais il y a beaucoup d'hommes qui participent aux cours, et ça, c'est très bien. En général, les hommes sont pudiques, les hommes ont peur, mais au final, les postures sont simples, adaptées. adaptable. Et du coup, en général, c'est plus une peur de l'inconnu.
Oui, bien sûr.
Parce que quand ils en sortent, ils sont ravis. Et ils sont agréablement surpris. Parce que ce sont des gens qui me disent « Oh là là, j'arrivais pas à me mettre en tailleur. » Ou même des gens que j'ai vus ne pas savoir se mettre en tailleur. Et puis après un mois de pratique, pouvoir se mettre en tailleur. Après, des gens qui émotionnellement étaient assez instables ou se laissaient se dépasser par leurs émotions, viennent me voir en me disant « Au bout d'un mois, eh ben, je prends beaucoup plus de distance avec les situations du quotidien. Je me fâche moins. Je suis moins victime et esclave de mes émotions. » Et ça, c'est un bonheur d'entendre
ça.
C'est-à-dire que réellement, ce que l'on transmet est bien appliqué et fonctionne.
Donc, les cours individuels,
oui, les cours collectifs.
Il me semble aussi que tu as créé à l'origine de randonnée yoga dans les Ardennes.
Ouais.
C'est toi qui as conçu ça.
Ouais.
Hein, donc, le principe, c'est de faire de la randonnée et à la fois des postures de yoga.
Alors, posture et pas que, du coup. Oui. Et c'est là, en fait là que où je trouve le plus d'épanouissement et là où je sens que je peux introduire tout le travail que j'ai fait en amont. Mm-hmm. Parce que... Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Le fait d'avoir fait Compostelle avec mon père et du coup d'être une randonneuse forcenée avec mon père depuis plusieurs années et encore maintenant. Le fait aussi que la marche apporte presque autant de bénéfices ou même voire quasiment les mêmes, enfin voilà, qu'une méditation, qu'un cours de posture. Il y a une réelle introspection quand on est dans un cours et quand on est en marche.
D'accord.
Réellement. Quand on prend le temps de regarder autour de soi, quand on prend le temps d'intérioriser ses sensations, les postures de yoga ou même un cours de yoga en règle générale, yoga en global, hein, pas que les postures, et la marche, la randonnée, pour moi, il y a exactement les mêmes choses.
D'accord.
Ça s'équivaut. Donc, je trouvais ça finalement très naturel de lier les deux.
De lier les deux.
Et en plus, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est sensibiliser les personnes à leur environnement. On a tendance à se détacher de soi, donc du coup à se détacher de l'environnement dans lequel on vit, à ne plus apprécier les jolies choses, voilà, à ne plus écouter, à ne plus se rendre compte des choses, à passer devant et finalement à plus les voir. Et ces randonnées yoga permettent justement de pouvoir lier tout ça. Donc le principe d'une randonnée yoga, voilà, c'est un cours de posture d'ancrage, ancrage au sol, ancrage à l'environnement.
À la nature.
À la nature, à ce qui nous entoure. Une sensibilité profonde, un respect profond de l'autre, de celui du groupe, donc des personnes qui sont là aussi avec nous. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect. Et aussi, respect pour l'environnement et pour ce qui est du monde naturel, du monde vivant. Et du coup, la marche, la randonnée se fait de façon totalement différente. Les gens ont une sensibilité exacerbée. Du coup, on part aussi du principe qu'on ne se plaint pas. Donc les gens sont très positifs. En règle générale, ils jouent le jeu bien comme il faut. Et du coup, il y a une belle convivialité.
Il y a une belle énergie.
Voilà, une énergie de groupe. C'est vraiment très chouette. Et dans l'esprit de je fais ça pour moi, en respect de l'autre, de l'environnement. Il y a comme une reconnexion réelle à soi, à l'environnement, à l'autre, qu'on a tendance à oublier parce qu'on le voit tous les jours, on passe devant, on n'y fait pas attention. Là, il y a une interaction entre tout le monde. On interagit ensemble, en fait. C'est ça qui est hyper chouette. Et à la fin, de nouveau, voilà, petite posture, toujours une phrase philosophique à la fin et puis une petite méditation. Pour
se détendre.
Voilà, des initiations. Faut pas que les gens aient peur. Souvent, j'ai des questions de « Ah, j'ai jamais fait de yoga, est-ce que je peux quand même venir ?» Mais bien sûr, mais venez au contraire. Ce que je dis aux gens, c'est une superbe première approche du yoga.
Bien sûr.
Et toute
votre
journée...
Parce que du coup, c'est une approche globale.
Mais complètement.
Et pas que au travers des postures.
Complètement. Il y a vraiment tout ça. Et en plus, ça permet d'échanger tout le long de la journée avec ces personnes-là et à pouvoir partager, se transmettre de manière beaucoup plus profonde et utile que lors d'un cours dit de posture que les gens recherchent aujourd'hui. Mais là, cette année, à la différence de l'année dernière, je souhaite instaurer pour cette année en cours collectif des moments où à chaque début de mois ou à chaque début de protocole que je veux instaurer, je fais une sorte de petite conférence où j'explique à mes élèves ce pourquoi ils font ça.
Ok. Pour donc, aller au-delà simplement au-delà de la des postures. Pratique de...
Voilà. Et aujourd'hui, c'était une réelle volonté d'avoir des élèves motivés qui veulent vraiment s'investir dans le yoga de manière comprendre. Globale et le comprendre.
D'accord.
Et pas seulement venir parce que bah, le yoga, ça va m'étirer les muscles et je vais être détendue et zen. Je voulais vraiment autre chose.
Si tu avais, pour finir, une leçon de vie ou une philosophie ou une idée principale que toi, tu retiens de ta vie et que tu voudrais partager avec les auditeurs par rapport à tout ce que tu as vécu au travers de tes voyages, au travers aujourd'hui de ton métier de prof de yoga, ce serait quoi cette idée, cet état d'esprit ou ce concept que tu voudrais partager et que tu finalement tu auras envie de porter et d'enseigner à tout le monde?
J'en ai un, et d'ailleurs ça, c'est dingue parce que ça m'émeut rien que d'y penser, parce que ça, il y a énormément de souvenirs qui remontent avec cette phrase. C'est juste une phrase qui a régi ma vie depuis mes 20 ans que j'ai commencé à voyager. Parce que je me suis jamais... Je laisse ce suspense. Parce que je me suis jamais privée. J'ai jamais eu peur des risques, bizarrement. Les gens me disaient, mais t'es une fille seule et tu pars avec ton sac à dos à l'autre bout du monde. Mais t'es dingue. Et moi, ah, t'es courageuse. Et moi, il faut savoir que je trouvais les gens qui restaient, fondaient des familles, avaient des enfants, un travail, ça, je trouvais ça hyper courageux. Au contraire, j'admirais. J'avais l'impression, moi, de prendre la fuite, en fait, quand je faisais tout ça. Au final, c'est eux que je trouvais courageux et eux me trouvaient courageuse. Et du coup, je me dis, mais je me suis jamais fermé les portes. Je suis toujours allée là où j'avais envie d'aller, sans penser au risque.
Donc, c'est ça, cette phrase?
Non. La phrase, c'est « Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie ». Et ça, c'est ce qui a régi ma vie jusqu'à maintenant. Dès que j'avais un rêve, dès que j'avais une envie, je ne me suis jamais freinée pour le réaliser. Et ça, vraiment, c'est ce qui a permis que je sois là où je suis aujourd'hui, à te parler et à transmettre ce genre de choses. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai gravé. Je ne dois plus y être aujourd'hui. J'ai gravé ça sur la table du bar lors de mon premier voyage au Pérou.
Au Pérou.
Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Et je trouve que c'est très parlant. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'autorise plus. Tout le monde a des rêves. Quand tu écoutes les gens, c'est « Oh, moi, si seulement. Oh, là là. Oh, t'as de la chance. » Non, déjà, la chance, on se la crée.
Bien sûr.
Souvent, quand les gens me disent « Oh, tu pars, t'as de la chance. » J'ai fait des sacrifices pour. Aujourd'hui, j'ai pas ta situation. Aujourd'hui, j'ai pas de maison. Aujourd'hui, j'ai pas de famille. Aujourd'hui, j'ai un travail qui ne me permet pas de vivre encore. J'ai 34 ans. J'ai envie de dire qu'à
Bien
un moment
sûr.
Donné... On fait des choix.
Bien sûr.
On crée sa chance, on crée sa vie. Mais aujourd'hui, je suis riche de tout ça. Et à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai regretté ce que j'avais fait. Parce que pour moi, regretter, c'est la pire des choses. Et c'est pour ça que de dire qu'on tire des choses positives de chaque expérience négative, on en ressort grandi. Et c'est ça qui permet de ne pas regretter, en fait. Parce que lorsqu'on se dit « Oh, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, et puis ça, je suis une victime. » Au final, t'es une victime. Et tu n'en ressors jamais de ce cercle-là. Faut savoir s'en sortir, faut savoir se dire, mettre un coup de pied à l'étrier et dire « Maintenant, je le fais. Maintenant, j'y vais. Maintenant, je me donne le pouvoir de le faire. »
Je vais choisir
ouais,
que les choses se passent différemment.
Tout à fait. Je fais le choix. Voilà, voilà. Je prends pas le bus climatisé. Je prends le combi où je vais dormir avec quelqu'un qui sent mauvais des pieds.
Et même si il y a des difficultés sur cette route-là avec ce combi-là, je choisis...
Je choisis la difficulté avec ce combi parce que c'est celle qui m'enrichira le plus.
Et parce que je choisis d'interpréter comme je le veux ce qui va m'arriver.
Complètement.
Et d'en faire une force.
Complètement.
Et non pas de le subir comme une victime.
Complètement. C'est ça, c'est faire une force de toutes ces expériences de vie-là. Et oui, elles ne se sont pas forcément hyper bien passées. Et non, je ne suis pas ressortie à chaque fois avec des amis et avec des gens qui... Mais aujourd'hui, c'est moi. Et c'est moi entière. Et c'est moi sur un chemin de vie qui me correspond. Si je n'avais pas fait tous ces choix-là, aujourd'hui, je serais peut-être encore sur un poste d'assistante de direction peut-être que j'aurais déclenché un cancer. Peut-être que je serais déjà divorcée avec 3 enfants. Peut-être que...
Mais peut-être que tu serais très heureuse aussi.
Ça permet-moi d'en douter. Je commence à me connaître. Je commence à me connaître et je me dis que non. Je me dis que 20 ans dans la même boîte...
C'est pas toi.
C'est pas moi. C'est pas moi. Et c'est ce à quoi on me destinait à la base quand j'avais cette personne à l'époque, quand j'avais 20 ans, et avec qui je me suis séparée finalement entre 2 voyages parce que c'était plus possible... C'était quelqu'un que j'avais rencontré à 19 ans, voilà, on avait passé 3 belles années ensemble, ça a été dur parce qu'on se voyait que le week-end, c'est une relation d'étudiant. Et moi, c'est pas que le savais, mais non, il faut vivre ses rêves.
Donc c'est ça ton message aujourd'hui, il faut vivre ses rêves et il faut vivre sa vie et assumer ses choix.
Complètement.
Pour ne pas rêver sa vie, mais la vivre pleinement.
Rêver sa vie, c'est la pire des choses. La pire des choses, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out. Le nombre de burn-out aujourd'hui que je peux traiter en séance, c'est affolant.
Et finalement, toutes les difficultés aussi, parce qu'on pourrait très bien se dire « Ah ben oui, mais c'est bien beau, mais moi je rêve de faire ça, par exemple. » Mais pour le faire, il y a ça, 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 et ça comme embûche sur le parcours. Mais en fait, encore une fois, tout est une question d'interprétation. Ce ne sont pas des embûches, ce sont des opportunités d'apprendre, d'avancer, de progresser et d'en sortir encore davantage grandi.
Moi, j'ai eu une très bonne coach il y a un an qui m'a permis effectivement de me rendre compte que je me trouvais des excuses en fait à passer le cap parce que tout n'a pas été facile non plus. Ça a été... Cette formation-là m'a ouvert des choses, mais... Tout ne s'est pas mis en place de façon facile. Rien n'est facile. Tout est apprentissage. Et oui, effectivement, grâce à son aide, grâce à ton aide, j'ai pu me rendre compte que toutes les excuses que je cherchais à ne pas développer mes anges, c'était finalement des choses que je me mettais, des obstacles, des excuses que je me mettais pour ne pas avancer. Et que finalement, en saisissant et en transformant ces excuses en choses positives, c'était effectivement des opportunités.
Alors, pour les personnes qui auraient envie de te contacter aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est possible si elles ont des questions à te poser sur le yoga, sur tes voyages, comment on peut te retrouver, comment on peut te contacter?
Alors, il y a Facebook.
D'accord. Voilà. Donc, mes anges, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
Facebook, par téléphone, volontiers une conversation par téléphone, même d'accord. Aller boire un verre. Alors, je serais ravie, si jamais il y a des questions, d'aller boire un verre. Il y a des lieux très chouettes sur Charleville pour aller boire des verres. Donc
on retrouve toutes tes coordonnées.
Mes coordonnées, sur Facebook. Ou bien l'adresse mail, le numéro de téléphone que tu pourras communiquer aussi.
Dans les notes.
Dans les notes, voilà. Avec grand plaisir. Okay. J'échange avec grand plaisir.
Une dernière question, parce que j'aime beaucoup cette question-là. Est-ce que tu aurais une source d'inspiration à recommander? Que ce soit, par exemple, un livre, un film, peu importe, une personne, mais quelque chose qui, toi, t'a profondément marqué dans ta vie.
C'est marrant parce que je l'ai apporté. J'ai senti le besoin d'apporter cet objet aujourd'hui pour l'avoir avec moi parce que je me suis dit que c'était la clé de mon éveil, de l'éveil de mon chemin intérieur, en fait. C'est ce qui a commencé l'engrenage. C'est vraiment la clé qu'on a tournée pour que l'engrenage de mon chemin de vie commence. Et c'est le livre « L'alchimiste » de Paulo Coelho.
D'accord.
Qui a été, j'en ai des frissons, que j'ai lu des dizaines de fois, qui a résonné différemment à chaque fois que je l'ai lu. Et qui, pour moi, lorsque l'on est sur sa quête personnelle, comme il l'appelle, sa légende personnelle, lorsqu'on est en quête de soi, ce livre nous apporte énormément de réponses.
D'accord.
Et ça a été la clé de tout. Je l'ai lu, j'avais 19 ans, on me l'a offert. C'était sur les bancs de l'université à Reims. Le hasard de l'univers a fait que je rencontre cette personne sur les bancs de l'université. Je relisais un cours et il est arrivé. Il n'était même pas dans ma promo, rien, je ne le connaissais pas. On a commencé à discuter et il m'a offert ce livre. Il m'a dit, par rapport à ce que tu me dis, à ce que je ressens chez toi, lis ce livre. Et il a été la clé de mon ouverture d'esprit. La clé qui a fait qu'aujourd'hui, je me sente à ma place. Chose que je n'avais jamais vécue jusqu'à maintenant. Je me sentais extraterrestre, je me sentais incomprise, je ne me sentais pas en phase avec des idées, des philosophies, une certaine sensibilité au monde et à l'autre, qui était peut-être trop avancée pour l'époque déjà. Enfin, trop avancée sans... En toute humilité encore, mais des idées de végétarianisme, de climat, de rapport à l'autre, dans l'humain, dans l'acceptation, dans l'adaptabilité, dans le fait que la vie avait peut-être un sens différent à ce qu'on voulait lui donner. J'avais la sensation d'être un réel extraterrestre. Et lui a permis que je sois humaine de nouveau. Ou en tout cas que je trouve d'autres extraterrestres avec qui partager toutes ces histoires.
Écoute, Julie, un grand merci pour tous ces partages. C'était vraiment formidable et authentique. Donc, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspirée. J'espère que ça va inspirer les personnes qui vont t'écouter.
J'espère.
Donc, merci énormément à toi pour ces partages.
Avec plaisir.
Et puis, je te dis à très bientôt.
Oui, à bientôt, Catherine.
Merci, Julie.
Salut.
Rebonjour à tous. Je reviens dans cette deuxième partie d'épisode, comme d'habitude, pour développer une clé, c'est-à-dire approfondir un outil pratique avec vous. Et le thème que j'aimerais aborder est celui de la prise de décision. Julie nous a partagé en fin d'interview sa phrase inspirante qui est « Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie ». En réalité, Julie, tout au long de sa vie, a créé sa chance, elle a pris des décisions, elle a fait des choix. Et ce que je constate très souvent auprès des personnes que j'accompagne en coaching est la difficulté à prendre des décisions, à faire des choix et à passer à l'action. Il existe tout un tas d'études neuroscientifiques qui expliquent le fonctionnement de notre cerveau et notamment, très concrètement, ce qu'il s'y passe lorsqu'il s'agit de prendre une décision, ce qui fait que, pour certains, il est aisé de faire un choix et pour d'autres, non. Mais mon objectif ici n'est pas de vous faire un cours de neurosciences, je n'en ai absolument pas les capacités, mais plutôt de vous donner des clés pour identifier comment réussir à prendre une décision. Il existe également tout un tas d'outils théoriques que vous pouvez trouver dans des livres de développement personnel. Mais avant même de mettre en œuvre ces outils très intéressants et percutants en général, il y a une notion qui me semble importante de creuser, à savoir la notion de bonne ou de mauvaise décision. De manière générale, ce qui nous freine souvent dans cette prise de décision, c'est la peur. La peur de se tromper, la peur de regretter, la peur de décevoir, la peur de ne pas y arriver... La liste est longue et je suis certaine que vous pourriez m'en citer d'autres. Pourquoi ressentons-nous cette peur ? Eh bien notamment parce que nous considérons qu'il existe soit une bonne décision, soit une mauvaise. Notre esprit est très cartésien. Il considère que c'est soit bien, soit mal. Qu'il n'y a qu'une seule bonne décision ou forcément, à l'opposé, une mauvaise décision. C'est soit noir, soit blanc. Sauf que non seulement la couleur grise existe, mais d'autre part, évidemment, personne n'a de boule de cristal. Ce que je veux dire, c'est que les éléments que vous avez en votre possession à ce moment-là, les informations dont vous disposez, c'est-à-dire les plus, les moins, les pour, les contre, les avantages, les inconvénients, ce sont des éléments présents dans le contexte dans lequel vous êtes au moment de cette analyse, au moment de ce choix qui est à faire, dans la réalité dans laquelle vous êtes à ce moment précis, avec cette situation telle qu'elle est, les gens qui vous entourent, les émotions que vous ressentez, vos besoins du moment, etc. Ce que je veux dire, c'est que prendre une décision, c'est finalement faire un choix à un moment T avec des éléments et un contexte actuel, avec des projections et des suppositions en termes de conséquences pour le futur. Alors qu'en réalité, vous n'avez aucune possibilité de prévoir avec certitude et à 100% les conséquences qui vont découler de vos décisions. Parce que l'environnement change, le monde change, vous-même vous changez, les circonstances changent également. Ce qui signifie qu'une décision ne peut pas être soit bonne, soit mauvaise à l'instant où vous la prenez. Elle est un choix que vous faites en fonction des informations dont vous disposez à ce moment-là et c'est surtout ce que vous allez faire de ce choix par la suite qui le rendra bon ou mauvais. C'est ce que vous ferez de la suite de votre vie dans ce contexte de choix que vous avez opéré et qui fera que vous en obtiendrez des conséquences positives ou non. Ce que je veux donc mettre en avant, c'est le fait qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises décisions, mais simplement des choix à faire dans un contexte particulier. Et une fois que vous vous êtes détaché de cette notion de bonne ou de mauvaise décision, je vous propose donc de procéder en trois étapes dans votre prise de décision. Premièrement, d'un point de vue rationnel, quelles sont les informations que vous avez à votre connaissance à ce jour précis par rapport à la situation pour laquelle vous avez une décision à prendre ? quelles sont les informations dont vous disposez. Les écrire permet d'ailleurs d'activer ce côté rationnel de notre cerveau, de poser les informations, de les faire exister et de les clarifier. Vous pouvez donc, de manière tout à fait simple, dresser la liste des points positifs et des points négatifs, par exemple. Parfois même, lorsque plusieurs critères rentrent en ligne de compte dans votre prise de décision, vous pouvez utiliser des indices de pondération pour chacun de ces critères, ce qui va vous permettre de départager encore plus finement chaque élément et vous permettre de trancher davantage. Deuxièmement, interrogez votre intuition, vos ressentis. Lorsque vous envisagez telle ou telle réponse à votre question, que ressentez-vous? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Quelles sont vos sensations? Est-ce que vous ressentez plutôt des papillons dans le ventre qui vous donnent envie d'aller de l'avant et de suivre cette direction? Ou est-ce que vous ressentez des émotions qui sont plutôt inconfortables, comme de la tristesse ou de l'inconfort, un manque d'enthousiasme ou de la colère, ou en tout cas, je ne sais quelle autre émotion qui pourrait être désagréable? Donc interrogez votre intuition et vos ressentis. Et enfin, troisièmement, je vous propose d'interroger vos valeurs personnelles. Est-ce que la décision que vous vous apprêtez à prendre est cohérente avec vos valeurs personnelles? J'entends par valeur ce qui est important ou fondamental pour vous. Ce point nécessite donc de bien se connaître et de bien avoir identifié ses valeurs en amont. Par exemple, si le respect est pour vous une valeur fondamentale, demandez-vous si la décision que vous êtes en train de prendre et le choix que vous êtes en train de faire est bien en cohérence avec cette valeur de respect. Est-ce que vous êtes non seulement en train d'une part de vous respecter vous-même, mais aussi de respecter les autres, par exemple, si c'est cette valeur-là que vous voulez mettre en avant. Est-ce que ce choix que je m'apprête à faire me permet d'être moi-même, d'être en cohérence avec qui je suis, avec mes valeurs et avec qui je veux être ? Donc je reprends en synthèse. Détachez-vous d'une part de la notion de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a finalement que des choix à faire et c'est ce que vous en ferez ensuite qui fera que ce choix sera une bonne ou une mauvaise décision en fonction des conséquences que vous en obtiendrez de par les actions que vous aurez menées. Ensuite, une fois que vous êtes détaché de cette notion, je vous propose trois étapes. Premièrement, écrivez les informations dont vous disposez concernant les différents choix qui s'offrent à vous, autrement dit, les avantages et les inconvénients de chaque situation. Deuxièmement, interrogez vos sensations, vos ressentis et les émotions que vous ressentez à l'évocation des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Troisièmement, interrogez la cohérence de ces choix avec vos valeurs personnelles et avec qui vous êtes et qui vous souhaitez être. Voilà pour ce 20e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous et que cette clé partagée en fin d'épisode vous aidera peut-être dans vos décisions de vie personnelle ou de vie professionnelle. Je vous rappelle comme à chaque fois que si vous souhaitez me contacter ou découvrir les formes d'accompagnement que je propose, vous pouvez trouver toutes les informations en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou vous rendre sur les réseaux sociaux, à savoir la page Facebook cbcoach ou encore le compte Instagram cbcoach51. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.